Salut, tu écoutes match après match.
Nous sommes le dimanche 15 mars, c'est bientôt le printemps et ça fait plaisir ici de vous retrouver, de passer un moment en votre compagnie. On est sur Bluezoom, on est sur YouTube. Vous pouvez nous écouter à partir de tous les lundis matins en podcast si vous préférez cette solution-là. On se réjouit de vous retrouver. Évidemment, j'espère que vous êtes en forme. Voici le programme de votre talk 100% foot. Lausanne recevait IB à la Tuilière. On débriefera la rencontre. Depuis plusieurs semaines, vous me demandez de parler de Challenge League sur les réseaux. Match après match est une grande famille. On vous écoute, on répondra à vos questions et on se demandera aussi notamment pourquoi tout le monde est choqué par l'éviction d'Adrian Urcea à Yverdon. Et enfin, il s'est passé beaucoup de choses sur les pelouses de Champions League cette semaine, des choses qu'on a adorées, d'autres qu'on a détestées. On en parle dans un moment ce soir dans le salon de match après match. Notre consultant, c'est Jérémy Manière. Notre invité, c'est Yanis Taffer. Salut les gars.
Salut Dani.
Salut Dani.
Yanis, merci beaucoup. 3 heures de route rien que pour venir nous voir depuis la France. Joli, bravo pour ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu jouais encore au foot jusqu'à cet hiver. Hein. Tu as eu 35 ans il y a quelques semaines. Et puis aujourd'hui, tu es assistant de Jérémy Clément. Tu voulais rester dans le monde du foot. C'était une évidence pour toi?
Oui, bien sûr. Quand j'ai arrêté, je me suis dit tout de suite, je vais faire la bascule pour passer coach. Ça s'est fait naturellement. Même si au départ, je n'ai pas forcément pensé. Mais après, quand je me suis dit que je vais arrêter, ça me paraissait naturel de passer le palier et d'être coach.
Ouais, coach assistant pour le moment dans la région de Grenoble. On se réjouit de parler un peu de toi, de ta carrière, évidemment, de ton passage en Suisse, de tes exploits en France. Ça parle forcément à Jérémy. En face, notre consultant ce soir, on était à Madrid ensemble cette semaine. Tu étais aussi au match au sommet, à Haro contre Vaduz. En fait, tu étais partout où il fallait pour qu'on ait une émission pile poil comme il faut.
Bah, c'est fait exprès. Non, je plaisante. c'est vrai que j'ai vécu des belles émotions foot cette semaine avec ce grand match à Bernabeu mercredi. Certains diront que j'ai vu un autre sport vendredi à Haro, mais c'était quand même un bon match de Challenge League. Et puis on se revoit encore sur le plateau d'aujourd'hui. On se voit plus que nos femmes respectives. Je le dis souvent
à chaque fois. Mais c'est vrai.
Mais tant mieux. On travaille et on aime le foot, donc c'est la passion qui parle.
Je te propose de commencer par ton image de la semaine. Le zoom de Jérémy Manière concerne les résultats de cette semaine en Champions League.
Comme tu l'as brièvement évoqué, Dani, je crois que l'actualité du foot européen, elle a été assez dense cette semaine avec ses huitièmes de finale aller de Champions League, avec surtout des résultats, moi j'ai trouvé, qui étaient assez étonnants, avec beaucoup de buts marqués, avec Leverkusen qui a accroché Arsenal, avec Bodø/Glimt qui a encore créé un petit exploit en l'emportant 3-0 à domicile, le Bayern qui déroule, on s'y attendait un petit peu, Newcastle qui tient tête au Barça, PSG qui était récemment un petit peu plus en difficulté en Ligue 1 et qui a réalisé une dernière demi-heure exceptionnelle sous l'impulsion de Kvara. Donc moi j'ai vibré, on n'a pas encore parlé de Bernabeu et de Valverde qui a sorti son habit des grands soirs pour étrier Manchester City. Ça montre encore une fois que même si c'est la compétition reine et que c'est quand même des confrontations directes, il y a encore du spectacle, des beaux buts et que même à ce niveau-là, les surprises sont permises. Donc vraiment, j'ai adoré et j'ai hâte des matchs retour la semaine qui vient.
Ouais, on s'en réjouit évidemment. Tu as parlé de City. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats plus particulièrement de ces clubs anglais cette semaine? Si on élargit un peu le spectre, on est à 9 matchs, une victoire, 3 nuls, 5 défaites pour les clubs de Premier League sur la scène européenne. La seule équipe qui a gagné, c'est Aston Villa en Europa League. Il y a notamment 4 revers en Champions League. C'est très inattendu. Comment on peut le comprendre?
Je pense que ça peut être aussi dû à ce qu'on voit, à ce qu'on retrouve les week-ends dans leur championnat. Je pense dans leur championnat, avec l'intensité qu'il y a tous les week-ends, ils peuvent perdre aussi un peu cette fraîcheur physique, je dirais, sur les semaines de Coupe d'Europe. Donc à ce moment-là, c'est sûr que ça peut être des équipes mises en difficulté.
Puis, si on considère peut-être que la Champions League, il y a seulement Newcastle qui a joué à la maison. Est-ce que les 5 équipes qui vont recevoir mardi et mercredi, ça peut nous permettre peut-être de relativiser un peu ces résultats?
Oui, alors il faut attendre forcément mardi et mercredi pour se faire un avis clair sur la question. Par contre, c'est vrai que 6 représentants sur 16 en 8e de finale, et il y a 2 matchs nuls et 4 défaites à l'aller, ça reste relativement maigre pour le plus grand championnat du monde. Donc on s'attend à mieux de la part des Anglais. Je rejoins Yanis par rapport à ça. C'est que l'influx et l'énergie que tu laisses en championnat ou même en FA Cup avec des matchs tout le temps ou presque, tu peux le payer dans la grande compétition et ça peut aussi être la raison de ces surprises, notamment pour Manchester City.
Tu parles de surprises en regardant dans le rétro. On a déjà une question de Jonas. Surprise au retour à l'Emirates entre Arsenal et Leverkusen?
Non, non, alors je pensais que tu allais me poser la question pour est-ce que City va remonter le score. Non, concernant Arsenal, même s'ils sont moins bien ces temps, je ne les vois pas craquer à domicile. Je pense que sans être transcendant, ça va malgré tout dérouler. C'est très fort défensivement. Il y a toujours un petit coup de pied arrêté par-ci, par-là sur lequel ils peuvent se reposer.
Oui, on nous demande déjà évidemment des réactions par rapport à Kinski, le gardien de Tottenham. Évidemment, c'est au programme. C'est Jérémy qui vous en parlera tout à l'heure. Et puis, on en parlera évidemment. On demandera évidemment son avis à Yanis. Parmi les équipes anglaises, lesquelles voyez-vous se qualifier ? Arsenal, Liverpool, City, aucune ?
Arsenal, Liverpool aussi.
Face à Galatasaray, malgré la défaite 1-0
Ouais, malgré la défaite, je les vois revenir à Anfield.
C'est tout,
et
moi,
puis,
je crois.
Et puis City, non. Ouais, City,
non. Newcastle, non.
Le retard est trop important.
Tottenham non plus.
Non plus.
Et Chelsea, je ne pense pas non plus, moi.
Contre PSG, ouais, non plus. Ça me paraît, en fait, l'écart est trop important. Paris a sécurisé au match aller.
Donc ça nous laisse trois équipes. Donc Chelsea, Liverpool et Arsenal en Ligue des Champions en quart de finale pour vous.
Non, Chelsea pas. Non, Liverpool pour moi.
Oui, les deux en fait.
Arsenal et puis les quatre autres, ça saute. Ouais.
Ok, c'est possible, d'accord.
Alors c'est que mon avis et puis je suis très mauvais en pronostic.
Je suis d'accord.
Ce qu'on a retenu cette semaine, évidemment, c'est aussi la masterclass de Federico Valverde. Un triplé en 42 minutes à Bernabeu contre Manchester City. Une prestation gigantesque, match d'anthologie à tous les niveaux.
Oui, il a créé, on va dire, sa propre magie ce soir-là. Son premier but, il fait un grand appel de balle avec une belle passe de Courtois au départ. Il prend le ballon en mouvement. Le second but, il se projette bien. Il enchaîne du pied gauche dans le petit filet. Une finition d'attaquant. Et puis, son troisième but, il a fait un geste de grande classe. Franchement, sur sa prise de balle, on va le voir à l'image.
Ouais, j'ai encore Jérémy dans mon oreille.
Non, franchement, contrôle qui prend son défenseur et puis après, il l'enchaîne sur du coup de pied, petit filet. Très grande classe.
Un régal. Ce but est un régal. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il court tout le temps. Il est partout. Il abandonne jamais. Il lâche rien. C'est vraiment le genre de joueur que perso j'aime puis que j'aimerais avoir dans mon équipe. Il a été partout. Il a joué à je sais pas, 5 positions différentes mercredi.
Non, et puis on l'a vu surtout faire des pressings tout terrain au poteau de corner opposé en deuxième période. Ça témoigne que de la confiance qu'il habitait ce match-là. Je pense que tout ce qu'il touchait, il le réussissait. Il avait le public avec lui. On savait que c'était un bon joueur de toute façon, mais par contre des matchs comme ça, c'est le genre de match légendaire, mémorable, qui reste dans les esprits. On en parlera sûrement encore dans 10 ans, peu importe le parcours du Real, mais par contre la prestation majuscule de Valverde, on en parlera encore dans 10 ans, parce que pour son poste à lui, mettre 3 buts en une mi-temps, c'est exceptionnel. Et puis pas n'importe quel but en plus.
Ouais, il avait marqué 3 buts en 75 matchs de Champions League auparavant. Là, il en a marqué 3 en 42 minutes. C'est encore un peu une de ces nuits surréalistes en Champions League au Bernabeu.
Surtout que c'est un milieu de terrain, comme vous l'avez dit, il met un triplé en une mi-temps. Donc là, on peut se dire clairement que c'est une prestation XXL.
Ouais, absolument. Valverde encore buteur samedi contre Elche. Ça fait 5 buts en 3 matchs, hein, entre le Celta, le triplé contre City et puis le but de Dingo. Puis moi, bon alors, celui-là, puis je vous ai quand même sorti le lob d'Arda Güler aussi.
Il faut droit
derrière. Ouais. Qualité exceptionnel. Bah, Yanis, tiens, je t'écoute volontiers sur ce geste-là.
Il en a marqué un peu plus que moi, il est comme ça, Yanis.
Ouais, c'est ça. Et puis, celui-là, surtout, je crois.
Là, c'est la vision. Il voit clairement le gardien avancer. Il a pris l'info. Et puis là, il décroche une frappe exceptionnelle. Elle est bien, bien équilibrée. Et elle finit au fond des filets, donc rien à dire.
Bon, il y a Jonas qui veut aussi qu'on parle de la masterclass de Olise, évidemment, avec le Bayern aussi. Oh. C'est vrai que bon, c'était la veille. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus inattendu d'avoir un Valverde qui te marque un triplé. Mais Olise, c'est aussi du tout haut niveau.
Oui, alors personne ne doutait du fait que le Bayern s'impose à Bergame et que le Bayern déroule même. Après, à ce point-là, c'est vrai qu'on ne l'aurait peut-être pas prédit à ce stade de la compétition. Mais c'est du très haut niveau. Sans Harry Kane, c'est lui qui a pris les choses en main. Et, tant passeur que buteur, il a un pied gauche soyeux. Il est capable de marquer comme de faire marquer. Moi, c'est un joueur que j'adore par sa créativité, par sa touche technique. Il voit des passes que personne ne voit, même à la télé. Donc, c'est encore une fois un joueur exceptionnel. Et actuellement, à son poste,
si on le considère comme ailier droit, à part Lamine Yamal, je vois personne de meilleur que lui, donc vraiment exceptionnel comme joueur.
Exceptionnel comme joueur. On a commencé un petit jeu, mais complètement par hasard, la semaine dernière avec vous. Vous êtes en train d'arriver sur YouTube, vous vous saluez entre vous, c'est génial. Merci d'ailleurs d'être là. Jeu des sosies avec Steven Lang et puis avec Stéphane Kuani qui était là. Donc n'hésitez pas à nous dire à qui ressemble Yanis et à qui ressemble Jérémy. Moi, c'était Di Marco la semaine dernière.
Je sais pas pourquoi. Tout le temps Benji et Kololi, on a joué ensemble, Kololi. On nous confondait tout le temps.
Ok, on va voir. Hein. Vous nous mettez un petit sosie 2 points pour que je puisse vous retrouver dans le chat. Et puis Yanis, n'hésitez pas non plus. Bon, il y a des choses qui nous ont fascinés cette semaine. Donc, on a parlé de Lisée, on a parlé de Valverde, on a parlé de pas mal de choses, mais aussi des choses qui nous ont dérangés. C'est Jérémy qui nous en parle avec l'art et la manière. Ça s'est passé mardi. Igor Tudor, coach des Spurs, complètement à la rue, en panne de résultats, en danger de relégation au championnat, choisit de titulariser Kinski en 8e de finale de Champions League contre l'Atlético de Madrid. Au Metropolitano, le gardien tchèque avait joué que 2 matchs en Carabao Cup cette saison. Il n'avait plus joué depuis le mois d'octobre. Et après 2 erreurs et seulement 17 minutes de jeu, son coach le sort sans même le regarder. Une attitude infecte.
Catastrophique pour moi. Alors, il y a eu passablement de discussions à ce sujet sur les différents plateaux, chez nous comme ailleurs. À l'international, ça a tourné et à juste titre. J'ai pas trop envie de revenir sur le choix, moi, de titulariser un jeune gardien inexpérimenté pour ce genre d'événement. Il est bien mieux placé que nous, Igor Tudor. Il l'a tous les jours à l'entraînement. Il sait ses qualités. Il avait peut-être un plan de jeu en place avec peut-être Kinski qui était plus à même de donner satisfaction que Vicario. Je ne juge pas parce que je ne suis pas à Londres à l'entraînement avec eux tous les jours. Par contre, moi, ce qui me dérange, alors comme beaucoup et comme la plupart des gens le diront, je pense, c'est cette sortie prématurée après 17 minutes où là, tu tues l'ego, tu tues la fierté, tu tues la confiance de ton gardien. Et puis surtout, aucun geste. Aucun geste de la part de l'entraîneur, aucune affection, aucune confiance donnée. Et ça pour anéantir un petit peu la saison de ton gardien et puis même sa confiance à moyen, voire long terme, c'est le pire que tu puisses faire. Zéro intelligence émotionnelle, peu d'empathie. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé, comme beaucoup d'autres. Et c'est regrettable parce qu'on sait que gardien, c'est un poste particulier. Il aurait pu attendre la 45e minute et la mi-temps pour le sortir. Le résultat était déjà ce qu'il était. Et ça n'aurait pas eu le même impact de le sortir à la mi-temps après 2 grosses bourdes que de le sortir après 17 minutes en mondiovision. Donc, voilà.
C'est ça en fait, moi que j'ai eu de la peine à comprendre. Le match est de toute façon plié, tu sais que tu ne vas pas revenir. Tu es déjà en difficulté en Première Ligue. T'as de la peine dans cette rencontre-là. À quoi ça sert de le sortir si de toute façon t'as perdu le match ?
Je pense que la question se pose de sa titularisation aussi. Je pense que la source, elle est là. Il faut se poser la question. Il faut aussi revenir sur ce fait-là parce que ça ne l'a pas aidé. Franchement, sur ce match-là, il avait peu joué jusqu'à présent. Donc le mettre dans cette confrontation-là, c'était aussi difficile pour lui. Et puis après, comme il a dit Jérémy, il y avait déjà 3 buts. Est-ce que c'était nécessaire réellement de le sortir à la 17e minute ? Je ne pense pas. S'il avait voulu le protéger comme il le prétend, il aurait pu éventuellement le sortir à la mi-temps. Mais c'est vrai que là, pour le gardien, déjà pour un joueur de champ, c'est difficile. Alors pour un gardien, là, c'est encore plus difficile.
Moi, je partage vraiment l'avis de Yanis sur ça. Je n'ai pas compris le choix, en fait. Un jeune gardien comme ça, oui, on n'est pas à l'entraînement avec lui, mais tu es déjà dans la merde en championnat. Tu ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai l'impression que tu te mets toi-même en difficulté en faisant ce choix-là. Alors,
je suis d'accord avec toi, mais tu es dans la merde en championnat avec un gardien qui est Vicario, qui ne donne pas non plus satisfaction. Et je pense que si on demande à tous les deuxièmes gardiens actuellement s'ils seraient contents peut-être de faire leur début en Champions League, même dans un match comme ça, il n'y en a aucun qui te répondrait, Dani. Ah, je suis pas expérimenté. Mon dernier match, c'est en octobre. J'ai pas envie. Je me sens pas. Malgré tout, c'était une chance pour Kinski. C'est pas un choix peut-être avec le recul en tant que coach. C'est pas le choix à faire. Par contre, je pense que n'importe quel gardien aurait saisi cette opportunité de jouer.
Oui, mais ça, c'est la discussion FC Bâle Liechtenstein. Le FC Bâle fait un choix. Liechtenstein va au FC Bâle parce que de toute façon, quand le FC Bâle t'appelle, tu y vas, malgré le fait que tu n'aies pas d'expérience. Le gardien, forcément, il va y aller. Moi, j'y vais aussi. Mais s'il m'appelle, tu dors, j'y vais là maintenant. Mais ce que je dis, c'est le choix que je ne comprends pas. C'est le choix si tu es déjà en difficulté. Attends, j'ai quand même noté. Hein, il a pris. Donc là, les Spurs viennent d'égaliser contre Liverpool juste avant l'émission. C'est le premier point. De Tudor. Donc, c'est un mec qui a pris 15 goals, il en a marqué 6. depuis qu'il est arrivé. Il a obtenu son premier point depuis son arrivée. Moi, j'ai jamais aimé ce mec. Ni quand il jouait. Non, mais ni quand il jouait.
T'étais bien placé, en plus, pour l'observer.
Depuis qu'il est coach. Enfin, je veux dire, il a pas de compassion, t'en as parlé, il a pas de bienveillance, il a pas d'autocritique. Dans sa carrière d'entraîneur, il a gagné une Coupe de Croatie avec l'Ajduk Split. Il s'est fait virer de la Juve en ayant été lamentable. Son passage à Marseille, pour moi, il est. On peut discuter.
Ça se finit mal.
On peut discuter, mais c'est pas un passage qui reste normalement dans les annales non plus. Il arrive à Tottenham. Tu sais pas comment.
Pas pour faire le pompier de service sur 6 mois.
Oui, mais pourquoi lui? Moi, j'ai horreur de sa façon de gérer ses équipes. J'aime pas son style de jeu. J'aime pas sa gestion humaine. Il a vraiment une gestion d'année 80-90, quoi. Pas de compassion. C'est le mec. Faut l'écouter. Et puis c'est tout.
Il a manqué d'empathie, franchement, sur la sortie du gardien. Il peut aller lui jeter un petit mot.
Juste une petite tape derrière l'épaule, comme ça change déjà le...
Au moins, exactement. De dire que voilà, je t'ai sorti, mais je te soutiens malgré tout. Là, sur le coup, il le sort et on a l'impression qu'il se désintéresse totalement de la personne, quoi. C'est là, au-delà du joueur, il y a la personne aussi derrière.
C'est là que je parle du fait qu'il n'a pas d'autocritique. En fait, c'est lui qui se plante, c'est lui qui fait ce choix. Donc, c'est à lui d'aller dire peut-être... Allez, je suis avec toi, on est ensemble, on s'est trompé ensemble, ou j'en sais rien, ou tu t'es planté, mais c'est moi qui ai fait ce choix. Et en fait, le fait de ne même pas aller lui serrer la main ou lui mettre une tape sur l'épaule, ça met encore plus de distance. Et puis, tu fais quoi le lendemain à l'entraînement? Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement avec ce mec?
T'as déjà perdu ton deuxième gardien, voilà. T'as Vicario qui n'est pas satisfaisant et performant en Première Ligue. Bah, de toute façon, c'est dans la continuité de ce qu'on voit à Tottenham depuis plusieurs mois. Et la victoire en Europa League, elle est déjà bien lointaine et ça ne change pas grand-chose finalement dans le bilan qu'on fait.
Allez, on vous a donné nos avis sur cette affaire, mais on avait envie de connaître l'avis de deux gardiens de Super League. On a tendu notre micro à Ratchopi du FC Sion et à Letizia du Lausanne Sport.
C'est la première fois que je vois ça dans le football, hein, qui sort un gardien parce qu'il fait 2 erreurs. Franchement, comment je réagirais? Je ne sais même pas. Ouais, je pense que je serais dépité et au fond du trou. Hein. Je dirais pas qu'il a tué sa carrière parce que je pense qu'il doit avoir du mental. Après, ouais, c'est sûr que la semaine qui a suivi, elle a dû être compliquée. Mais je pense qu'il a eu le soutien de sa famille, de ses proches, et puis ça, c'est le plus important. C'est un jeune gardien avec l'âge, mais je pense qu'il a quand même l'expérience des matchs. Rester positif avec les proches à nos côtés.
C'est pas bien. Moi, je donne plein de support à un gardien qui faut travailler, faut revenir plus fort. Ça, il peut aider dans le futur, ça c'est sûr, mais quand même, c'est d'un côté d'entraîneur, c'est pas bien, c'est pas juste. Il faut faire une manière différente. Et même, je sais pas quelle est l'histoire derrière, qu'est-ce qui se passe en entraînement, qu'est-ce qui se passe peut-être en vestiaire et tout. Faut comprendre tout image. Pour moi, c'est ça. Comme ça, on peut commenter juste sur le terrain qui se passait, mais. À la fin, ça c'est pour moi c'est une grosse déception et un trou qui ça va jamais dû arriver dans le foot.
Voilà pour les avis de ces deux gardiens. On en avait plusieurs encore de prévus. Ça n'a pas pu se faire, mais on remercie tous les clubs qui avaient accepté de jouer le jeu. Ma foi, parfois, les résultats font qu'on s'adapte et c'est déjà chouette d'avoir pu avoir Ratchopi et Letizia. Et puis, en fait, on voulait Ziggy et puis soit Saipi, soit Von Balmos, mais ça n'a pas joué hier soir. Donc, on n'a pas vraiment pu leur poser de questions. Le jeu des sosies, on a des trucs assez dingos. Alors, bon, moi, j'ai Giorgio Contini. C'est vrai qu'on me le dit assez souvent, effectivement. Sosie de Jérém, de loin, un myope sans lunettes peut le confondre avec Sorlotte, avec la carrure en moins et tout ça.
Moi aussi, 95 kilos, 1m95. Non, vous n'avez pas vu sous le pull.
Sorlotte, c'est l'attaquant préféré de notre producteur Daniel Burkhalter, qu'il a dans son équipe Fantasy Champions League. Et Daniel Burkhalter, il vient de nous aider parce qu'on a quelqu'un qui nous dit c'est Flavio. Sosie de Yannis Taffer. Yass Tom, je ne sais pas si je prononce juste, c'est un rappeur apparemment. Merci à Boubou d'avoir fait les recherches.
Je ne connais pas.
Du coup, on peut pas dire
on ça. On a souvent comparé à Di Maria.
Di Maria, ah ouais, c'est vrai, un petit truc. Fais voir comme ça, juste pour voir.
Il y a un petit truc.
Là,
la qualité de pied aussi, la qualité de pied. Ouais,
après, pour le pied gauche, ça me va.
Effectivement, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on lui a demandé de faire le cœur avec les mains pour voir si ça ressemblait un petit peu plus.
Il a bien fait.
Il a très très bien fait, du coup, on valide.
On va l'appeler André de toute l'émission.
André Yannis Taffer.
Voilà, ça fait ça. Voilà.
On ouvre notre page Challenge League. Vous nous avez demandé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux d'évoquer notre deuxième division. On vous écoute puisque on parle de votre talk 100% foot. L'actu de la semaine en Challenge League, c'est l'éviction d'Adrien Urcea à Yverdon. Beaucoup de gens m'ont écrit sur les réseaux, choqués. Est-ce que tu l'es également, Jérémy ?
J'ai été extrêmement surpris. Malgré la saison poussive en championnat et les 10 points qui les séparaient de d'Aro avant cette journée, il y a quand même une demi-finale de coupe à jouer. Il y a un projet de jeu qui est très ambitieux et qui est très exigeant. Donc le fait d'avoir viré Adrien Urcea à ce moment-là de la saison, pour moi, ça témoigne d'une extrême méconnaissance de la Challenge League. Sur les 15 dernières années, il y a 3 clubs qui ont fait la remontée immédiate. C'est Saint-Gall en 2012, c'est le FCZ en 2017 et puis c'est le Sion en 2024. Ça montre qu'à quel point c'est difficile. Et ce, même si on met des 10 000, 20 000, 30 000 mensuels à certains joueurs, c'est pas parce que tu investis massivement dans ton effectif, dans ta masse salariale, que tu as la garantie de remonter rapidement. Adrien Urcea, c'est typiquement le genre de coach à qui il faut donner 2 ans, parce que, comme je l'ai dit, c'est une philosophie de jeu qui est vraiment très précise, très exigeante. Et je suis très surpris. On savait qu'il y avait des dissensions en interne avec certaines personnes du club, notamment avec Lorenzo Falbo, qui est le conseiller du président. Par contre, j'imagine que le coup près, il a été actionné par l'actionnaire Jamie Welch et propriétaire. Et pour moi, on voit qu'il n'est pas au fait de ce qui se passe en Challenge League et de comment est cette ligue-là.
Yanis ?
Je n'ai pas d'avis sur la question, parce que sur la Challenge League...
Moi, perso, je ne fais pas forcément partie des gens choqués par cette éviction. Et je me demandais, pourquoi faut-il vraiment être choqué ? Tu as répondu déjà partiellement, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument être choqué ? J'ai eu peu d'échanges avec des gens qui ne l'ont pas été.
Tout simplement parce que Urcea, c'est un projet de jeu. C'est pas en une année que tu mets tout en place, parce que tu as une demi-finale de coupe qui est quand même historique dans l'histoire du club, même s'ils ont déjà joué une finale de coupe et puis que récemment, ils ont fait des beaux parcours. Il y a quand même cette coupe qui est à jouer, qui reste à jouer. Et puis à ce moment-là de la saison... Aro, on sait qu'ils aiment bien faire caca aux culottes sur les dernières journées. Ils étaient à 10 points. Il y a des confrontations directes. Je ne te dis pas qu'Yverdon aurait forcément joué les barrages, mais il y avait encore certaines choses à aller chercher.
Alors, je rebondis à LSTP qui souhaite savoir si c'était le bon timing pour s'en séparer. Tu as parlé
Non, je ne trouve pas du tout.
Quel aurait été le bon timing ? Avant ou... si, alors, partons du principe, on s'en sépare. Avant ou après cette demi-finale, par exemple ? Il faut de toute façon que tu t'en sépares.
Bien avant la saison, à la pause, à la trêve hivernale, avec du temps pour travailler, avec un camp d'entraînement potentiel, avec vraiment 4 à 6 semaines pour mettre des choses en place. Là, maintenant, juste avant la demi-finale, ça ne fait aucun sens. Juste après la demi-finale, il n'y a quasiment plus rien à jouer en championnat parce qu'on sera déjà trop avancé dans la saison. C'était bien avant ou jamais pour moi.
Moi, j'avais quelques sources concordantes qui m'ont quand même assuré qu'il a essayé plusieurs fois de se faire virer, de partir de là et tout ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a un côté où je me dis, je ne suis pas forcément choqué. Peut-être que sur ce coup-là, c'est moi, Igor Tudor, qui manque d'empathie et de bienveillance. Mais voilà, quand tu sais ça, peut-être tu te dis...
Alors, choqué, ce n'est peut-être pas le bon mot dans le sens où on savait qu'il y avait des dissensions en interne et puis que son caractère aussi, qui aime tout contrôler, tout maîtriser, mettre de son sujet, ça ne plaisait pas à tout le monde. Ça, on le savait. Par contre, de là à ce qu'ils actionnent le coup près maintenant, pour moi, incompréhensible.
Alors, on met souvent en avant son bagage tactique, sa patte, son identité de jeu, tout ça. Au-delà du coach, justement, son immense niveau d'exigence, tout ça, Urcea, c'est quand même un caractère très particulier. Celui, tu viens de le dire, il aime tout contrôler, tout ça. Mais au-delà de ça, il y a ce caractère, il y a cet ego, tout ça.
Alors, je pense que c'est de la confiance en lui parce qu'il sait qu'il connaît le football et puis il sait qu'il a fait des belles choses dans le football. Par contre, moi, de ce que j'entends, en ayant des sources proches dans le vestiaire comme ça, c'est qu'il est très apprécié de son vestiaire.
Oui,
même parmi les joueurs qui ne jouent moins, très apprécié des cadres, philosophie de jeu, entraînement très agréable. C'est le genre d'entraîneur en tant que joueur qu'on a envie d'avoir. Je pense que Yanis, vu le style de jeu de Yanis à l'époque, il aurait adoré l'avoir, moi aussi. Ça veut pas dire grand-chose au final, mais je suis très surpris qu'on s'en sépare parce que pour moi, en Challenge League, il n'y a pas d'équivalent, même si actuellement, Yverdon est 3e au classement.
Ouais, il y a les mêmes discours à Carouge. Il a laissé un très, très bon souvenir également là-bas dans tout ce qui est... Enfin, en tout cas, le vestiaire de Carouge, on parle également en bien. Ricola 26
te demande si André Abinoto est une bonne idée pour le remplacer.
Binotto, salut Ricardo, je reconnais le pseudo.
C'est vrai?
Ah, je reconnais.
Du coup, toi tu l'as eu André d'ailleurs au Slo.
Je l'ai eu, c'est aussi un entraîneur que j'apprécie beaucoup, qui fait du bon travail à Nyon avec les moyens du bord, parce qu'on sait que le budget à Nyon il est très limité et que ça se rapproche plus parfois d'une équipe de Promotion League que de Challenge League. Et il arrive vraiment à optimiser les moyens qu'il a à disposition en termes de jeunes joueurs qu'il met aussi sur le terrain, à qui il donne sa confiance. Il y a deux ou trois joueurs qui sortent du lot, notamment Melvin Mastil, Joris Mancon devant aussi, je ne vais pas tous les citer, mais il y a vraiment des jeunes joueurs qui sont mis en valeur. Et j'aimerais bien voir André Abinoto avec une équipe peut-être plus expérimentée, avec plus de moyens aussi. On sait qu'en interne, avec Lorenzo, par exemple, Falbo, ça se passerait beaucoup mieux parce qu'ils se connaissent bien. C'est un choix qui pourrait être cohérent. Par contre, aller chercher un entraîneur à ce moment-là de la saison chez un concurrent qui n'a pas encore assuré son maintien, ça me paraît compliqué, même si dans le football, l'argent parle souvent.
Ouais. Bon, ça pourrait aussi être un choix pour les mois qui arrivent, en fait, qu'ils prennent l'équipe.
Oui, après, d'un point de vue nyonnais. Ah, pour la saison prochaine, mm-hmm. tu dis ?
Par exemple. Oui, alors la question est restée comme ça, mais dans le temps, finalement, ça pourrait.
Alors, je pense
aussi que
c'est beaucoup plus faisable dans cette configuration-là que maintenant, avec Nyon, qui évidemment ne va pas vouloir céder à un entraîneur qui fait du bon travail.
Beaucoup de questions de fans du Servette FC, parce que là aussi, alors j'en ai reçu sur Instagram, il y en a dans le chat, en live maintenant. Ourséa qui se libère. Bah, les fans de Servette, ils sont tous là en train de taper de la patte, quoi, parce qu'ils voudraient évidemment avoir Ourséa à Servette.
Je les comprends. Oui, je les comprends parce qu'ils étaient aux premières loges pour admirer le travail d'Ourséa avec Carouge lorsqu'il les a fait monter, lorsqu'il les a fait aussi grandir en Challenge League. Et par contre, j'ai pas envie d'enterrer Jocelyn Gourvennec, même si c'est un petit peu laborieux depuis sa prise de fonction. Et puis, je peux comprendre aussi l'impatience des fans grenats. Mais on est trop tard dans la saison et j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose à faire en vue de la saison prochaine si finalement Gourvennec et les dirigeants veulent pas continuer ensemble. Mais c'est vrai qu'Ourséa, j'aimerais bien le voir en Super League, honnêtement.
Ouais, bah tiens, je te pose une question. Et Yanis, tu peux jouer aussi à ce petit jeu. On nous demande notre top 3 des meilleurs coachs actuels de Super League.
On est obligé de dire Lustrinelli vu le fait que là aussi, on parle d'optimiser un budget puis un effectif. Là, il tire la quintessence de joueurs sur le papier moyen en début de saison. Donc, je mettrai Lustrinelli. Faut pas que j'en oublie, hein, sinon certains ils vont m'en vouloir peut-être. Hein.
Crocci Torti, quand même.
Crocci Torti, ouais. Bah, tu me connais en fait. Crocci Torti, je l'adore. Je vais pas dire ceux que j'aime pas. Hein. Mm-hmm. On pourra faire le top. Non, on fera une autre fois. Ça. il manque un troisième là. Masson fait du très bon travail.
Masson fait du bon travail. Puis moi, j'ai quand même toujours. Je sais pas pourquoi, mais moi à Lucerne, je suis convaincu.
Mario Frick.
Il y a un peu un cycle qui se termine là, puis j'aimerais bien le voir un peu ailleurs.
Moi, je l'intègre à mon top 3 parce que ce qu'il fait avec des jeunes joueurs du cru depuis 3-4 ans, c'est exceptionnel. Et c'est pas son classement actuel qui va changer mon avis sur lui.
Yanis, je t'oublie pas, mais il y a beaucoup de questions justement sur cette Challenge League où t'as dit que tu suivais un petit peu moins à côté. Yverdon, j'aimerais bien un profil suisse-allemand jeune comme Bruno Berner, sinon Contini, si le budget le permet.
Bruno Berner, très intéressant. J'ai bien aimé ce qu'il avait fait déjà à l'époque à Krien. J'ai bien aimé encore à Getze. Je crois qu'il est un petit peu en vadrouille avec sa famille aux quatre coins du monde. Donc, je ne sais pas s'il serait disponible dans l'immédiat pour reprendre en Challenge League. Je ne connais pas personnellement. Par contre, sur le profil, j'aime bien. Ouais.
Lustrinelli, Masson et Zeidler, le top 3 de Chris Lausanne. Bon, il est légèrement subjectif dans son choix puisqu'il met Zeidler. Pour moi, Crocci Torti, le meilleur entraîneur du pays, nous dit Jonas. Contini n'ira pas. Yverdon, je pense, nous dit Chris Lausanne. Dites directement si vous détestez tout ce qui touche à Sion. Alors, pas du tout, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser à Didier Tolo.
Didier Tolo, on fait
nos choix, simplement. Et
alors ça, c'est très subjectif et c'est très personnel. J'aime beaucoup ce que fait Didier Tolo. Et j'adore ce que fait Sion aussi. Après, on parle d'un top 3. 3 sur 12, il y en a 9 qui restent sur le carreau. Donc, il faut faire des choix. On est là pour débattre. On est là pour dire pourquoi on les aime. Mais en tout cas, ce que fait Sion depuis leur remontée, c'est exceptionnel. Et j'ai dit à maintes reprises aussi sur le plateau que j'aime beaucoup les joueurs de Sion, ce qu'ils font sur le terrain.
Oui, mais il y a effectivement des gens qui sont parfois un petit peu susceptibles. On n'est pas fan d'une équipe. On est simplement en train d'avoir des discussions parfois objectives et parfois subjectives. Et c'est pour ça que ça donne ça. Mais je crois que Yanis, il voulait dire 3 fois Didier Tolo, en fait. Son top 3, c'est bon. Tolo.
Peter Zeidler en tant que coach.
Oui.
Tu le mets dans le top 3, alors.
Parce que je connais que lui, forcément, actuellement. Mais après, non, je mettrais aussi l'entraîneur de Thun sur ce que je vois du championnat. Parce que faire ce qu'il fait avec Thun, c'est exceptionnel. Voilà, 17 points d'avance, néo-promu.
Incroyable.
C'est incroyable.
17 points d'avance pour le moment, puisqu'il y a encore ce match à rattraper. Hein. Ce sera le 17 mars entre Saint-Gall et Lugano. Ça n'a pas pu jouer hier à cause de la neige. On te demande aussi comment tu perçois l'avenir de Xamax à moyen et à long terme. Et puis, il y a Toto Majorano qui ajoute, est-ce que Xamax est condamné à continuer à vivoter dans l'antichambre sous collet? Les frérots Xamaxiens, on est ensemble. Hein. On pense fort à vous, évidemment.
Moi, je suis déçu d'année en année de la part de Xamax, parce que chaque année, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui est fait sur le recrutement. Ce n'est pas un petit club comme Nyon ou Carouge qui a des tout petits moyens. Je ne te dis pas non plus que Xamax a 20 millions de budget, mais il y a des joueurs référencés en Challenge League qui arrivent. Demachai, par exemple, c'est le meilleur exemple, meilleur buteur du championnat. Il y a des bons joueurs vraiment qu'on va chercher aussi dans les clubs concurrents comme Romain Bayard. Et à tous les postes, on pourrait les citer. Vraiment, il y a de l'expérience même cette année. Il y a 2-3 jeunes qui ressortent aussi. Mais malgré tout, chaque année, je reste sur ma faim. Donc, moi, encore une fois, cette saison, ça sera une année terne pour Xamax. Et j'espère, un jour ou l'autre, pour les fans de Xamaxiens, qu'il y aura un renouveau et puis qu'il pourra surtout y avoir une remontée en Super League. Parce qu'une Ligue à 12, Xamax appartient à cette élite.
C'est pour ça, je le disais un petit peu sur le ton de la boutade, hein, quand on vous donne de la force, mais on pense à vous. Mais tous les week-ends, toutes les saisons, là, depuis quelques années, parce qu'on voit cette maladière qui n'est pas forcément garni, on voit que vous galérez avec votre équipe, et évidemment Xamax, on adorerait voir cette équipe en Super League. Notre producteur qui participe vraiment à l'émission, hein, il nous parle dans l'oreillette, c'est un grand fan de Neuchâtel Xamax. Quand j'ai annoncé ta venue, j'ai dit, Yannis Taffer va venir, ancien de Lausanne, ancien de Saint-Gall, et il m'a dit, oui mais c'est aussi un ancien de Xamax. T'as gardé quel souvenir de Neuchâtel, de ton court passage à Neuchâtel?
J'ai eu un passage éclair, franchement 6 mois, j'ai peu joué. Je suis venu dans une situation où on était déjà dernier, donc c'était compliqué pour se maintenir. Et en plus, je n'ai pas forcément joué à ma position préférentielle. Donc on va dire.
Mais dû à quoi? Moi, je me rappelle que justement, je ne comprenais pas ce que
tu connaissais. En plus, je connaissais Jeff Collet, je l'ai connu à Lausanne. Seb Fonbonne, dans la cellule de recrutement, je l'ai connu aussi à Lausanne. Donc je ne sais pas. Après, il y avait déjà une équipe en place. C'est vrai que les attaquants, Nuzzolo, il y avait Seferi qui marquait des buts aussi. Voilà, je me suis incorporé un peu au milieu de terrain, ça s'est bien passé au départ, et puis après j'ai de moins en moins joué, on n'a pas eu les résultats escomptés, donc au final on est descendu, mais j'ai quand même malgré tout gardé un bon souvenir, parce que voilà, ça m'a permis de revenir en Suisse, et franchement je leur souhaite le meilleur.
Ouais. Jérémy, il y a quelqu'un qui demande à Adrien Urcea pour la suite de Tolo, si Tolo s'en va, on se dirige, j'ai l'impression.
Alors on se projette loin, parce que je crois qu'il avait annoncé il y a quelques années peut-être vouloir mettre de côté sa carrière d'entraîneur, mais vu le super travail qu'il fait, je le répète pour notre auditeur ou bien notre téléspectateur qui mentionnait qu'on n'a pas relevé Tolo, je trouverais dommage qu'il s'arrête là. Moi, j'ai envie de voir cette équipe, continuer à grandir avec Tolo, parce que Tolo fait du super travail. Et puis, on a trouvé une stabilité et puis un club sain maintenant à Sion. Donc, ça serait un peu prématuré pour moi de s'arrêter maintenant avec lui.
Et puis, j'aimerais t'entendre encore sur une chose. Vendredi, c'était le choc de Challenge League. Tu y étais, c'était Arro qui recevait Vaduz avec une victoire. Les Argoviens pouvaient rattraper le FC Vaduz en tête de la Challenge League. Bah voilà, 2-0 pour Arro qui a fait le job. Est-ce qu'on aura un caca-culotte, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fin de saison, ou est-ce que cette fois, ça va être l'inverse?
Bah écoute, ça n'en prend pas le chemin. Généralement, ça craquait plutôt dans la deuxième partie de saison. Et moi, je les ai trouvés vraiment convaincants. Au contraire des dernières semaines où je trouvais Vaduz beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant, avec 0 but encaissé sur les 4 derniers matchs. Au contraire, Arro marquait beaucoup mais encaissait beaucoup. J'ai en souvenir ce 5-2 à la Pontaise contre Stade Lausanne-Ouchy, où je me suis dit non, mais c'est pas une équipe comme ça qui peut briguer la promotion. Et là, j'ai un petit peu revu mon jugement, parce que sur la confrontation directe de vendredi, Vaduz n'a jamais trouvé la solution. Arro a pris 2 buts d'avance très tôt et ensuite très bien défendu. Donc les cartes sont relancées, il y a égalité de points et il y a tout qui est encore à faire.
Bien, on parlera du FC Sion la semaine prochaine, c'est prévu, ne paniquez pas, c'est pas parce qu'on parle pas de votre club pendant 2 semaines qu'on ne l'aime pas, on adore le FC Sion. On a vu d'ailleurs Ilias Suarez qui est passé il y a quelques temps, on avait parlé du FC Sion. On laisse un petit peu de place aussi à la Challenge League pour faire finalement plaisir à tout le monde. Super League maintenant, avec le match qui comptait énormément aujourd'hui pour IB et pour Lausanne. Avec une victoire, Lausanne revenait à 3 points des Bernois. Avec une victoire, les Bernois, eux, prenaient le large. Victoire 2-0 de IB qui fait la bonne opération de cette journée, conjuguée en plus à la défaite de Lucerne. Doublé d'Alvin Sanchez. Ouais. Là, voilà, les supporters lausannois sur le chat nous demandent est-ce que c'est mort pour le top 6. J'ai bien envie de dire oui.
Bah oui, il y a 9 points, il reste 3 journées. Dani, ouais. Tu me corriges si je me trompe. Hein. 3 journées, 9 points, il faut faire carton plein, il faut dans la foulée que IB perde tout, il faut une différence de but favorable. Non, il faut maintenant planifier ce tour de relégation, bien le gérer et déjà peut-être aussi préparer la saison prochaine parce que malheureusement, en étant 7e, on peut déjà un petit peu planifier, sachant qu'il y a un peu d'avance sur les dernières places, mais pas tant que ça non plus.
Yanis, tu as suivi ce match en venant nous voir. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu retiens de cette prestation-là du Lausanne Sport?
J'ai trouvé le LS très intéressant en première mi-temps. Durant les 30-35 premières minutes, je les ai trouvés beaucoup plus combatifs sur les ballons que les Bernois. Mais après, c'est vrai que le but avant la mi-temps les a un peu enterrés, ça leur a fait mal. Puis après, en début de seconde période, ils sont en infériorité numérique. Ils reçoivent un carton rouge du défenseur Sault. Donc, c'est sûr que là, ça paraissait mal embarqué à ce moment-là. Et puis, 10 minutes plus tard, ils prennent le second but. Donc là, après, c'était pratiquement match terminé.
Même lecture, bonne première mi-temps. Et puis ensuite, trop difficile de revenir. Moi, je les ai trouvés un tout petit peu... absent offensivement. J'étais un peu déçu du LS offensivement.
C'est un peu dans la continuité des dernières semaines. Hein. Je les ai trouvés globalement depuis l'élimination contre le Sigma Olomouc. Je trouve beaucoup de difficultés malgré tout à être performant. Et alors ces matchs à Zurich qui changent un petit peu, qui peut-être changent un petit peu la vision qu'on a. Mais globalement, s'il n'y a pas un Jeannet des grands jours et Cousteau qui nous met des coups francs d'anthologie, des fois, je me dis c'est compliqué de... C'est compliqué de créer du danger. Je suis toujours pas très fan, moi, de ce 4-4-2 losange sous Peter Zeidler. Et malgré tout, voilà, IB a bien négocié la partie. Et c'est le gamin du coin qui est venu jouer les troubles faites.
Ouais, pour son premier match hein, à la Tuilière en tant qu'adversaire dans ce stade-là et contre le club qui l'a formé. Yanis, tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu Peter Zeidler, ce 4-4-2 losange, tu le connais
en dormant. Je l'ai très bien connu.
Pressing, Yanis,
avec
pressing.
Son gegenpressing. Gegenpressing. Non, mais il a une philosophie qui est comme ça. Il demande beaucoup de verticalité, du pressing haut. C'est vrai que de temps en temps, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer un peu bloc médian? Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, quand j'ai dit qu'ils ont fait une bonne demi-heure, oui, dans le contenu, dans le jeu, au milieu de terrain. Après, c'est vrai qu'offensivement, ça manquait d'occasions franches, ça manquait de tirs au but. Mais globalement, par rapport aux deux équipes, j'ai trouvé Lausanne légèrement supérieure à IB sur les 30 premières minutes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méthode Zeidler, elle demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et nous, quand j'étais à Saint-Gall, on a souvent pêché en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, on faisait des très belles premières mi-temps, on menait souvent au score. Et deuxième mi-temps, on flanchait physiquement.
On en parlait souvent en plateau d'ailleurs de cette époque-là.
Ouais. Ouais, c'est toujours un petit peu ce que j'ai reproché à Peter Zeidler. C'est très attrayant à voir comme jeu, il se passe toujours quelque chose. Par contre, je reproche le fait que c'est un jeu qui est vraiment énergivore. Quand on est un petit peu moins bien physiquement, c'est compliqué de négocier les deuxièmes périodes. Bah, tu en as apporté la confirmation. Et puis le fait aussi que parfois, il n'y a pas de plan B en fait. Si une équipe, elle sort bien les ballons, c'est très très dur pour les milieux relayeurs d'aller chercher les latéraux parce qu'il y a beaucoup de distance à faire. Et on peut vite se retrouver avec des équipes qui prennent l'eau en deuxième période avec des vagues, et c'est compliqué de gérer.
Et je rebondis, puisque tu l'as eu comme coach, jamais vous avez eu une discussion d'équipe ou quelqu'un qui disait « Mais voilà, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un plan B à un moment donné ou c'est pas possible de faire ça dans une équipe pro ?»
Si, on en a déjà discuté entre les joueurs. On a même parlé aussi avec le coach, mais... Après, quand son coach a son idée, c'est délicat de dire de jouer d'une certaine manière. Un coach, généralement, il va prendre ses idées, même s'il va écouter un peu les joueurs. Mais globalement, je pense qu'il reste surtout sur ça.
Mais il était à l'écoute.
Il était à l'écoute. Il était à l'écoute, mais après...
Il écoutait, mais il n'entendait pas.
Personnellement, moi, sa philosophie ne me dérangeait pas. Uh-huh. Parce que moi, j'aime bien être offensif, même que ce soit offensivement... en défense, en avançant, etc. Donc moi, perso, ça ne me posait pas spécialement de problème. Mais après, je peux comprendre que ça puisse déranger certains.
Allez, on écoute Alvin Sanchez, Carlo Letizia et Morgan Poiti, qui évoquent le manque de réalisme du LS aujourd'hui.
C'est exactement ça. Je pense que ils n'ont pas tant d'occasions que ça, mais que on ne fait pas la première mi-temps qu'on aimerait faire pour un match autant décisif. On revient avec de nouvelles intentions. Et c'est vrai que ce fait de jeu est un peu compliqué. J'ai pas vu l'action, je sais pas si. Mais en tout cas, après, c'est dur à 10 contre 11 contre une équipe comme ça.
Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à créer du danger beaucoup plus tôt dans cette partie?
Ouais, c'est, je ne sais pas comment l'expliquer tout de suite maintenant, parce que c'est un match, on savait que c'est tellement important, tellement. Donc, est-ce que c'était un peu de stress, un peu de. Je sais pas. Mais voilà, ouais. Tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est vraiment dommage.
Premier mi-temps, on a joué, on a bien joué, moi, je trouve. Et puis, par contre, on a encaissé le but, puis ça nous cassé le rythme, cassé l'état d'esprit. Et puis, deuxième mi-temps, le rouge qui est venu tôt, bon, il a quand même, il nous a pas aidé.
C'était un match assez spécial pour moi, parce que voilà, c'est là où j'ai grandi. Mais voilà, ça restera toujours mon club d'équerre. C'était un adversaire direct, c'était important de gagner aujourd'hui. Et on l'a fait, mais maintenant, la saison, elle n'est pas encore finie. Il faudra engranger le plus de points avant les play-offs.
Voilà pour les réactions d'après LSIB. Une dernière question concernant ce match. On nous demande, c'est Fabricio qui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez que Lausanne doit changer? Est-ce qu'il faut vraiment changer encore quelque chose maintenant, alors qu'on est presque...
Pas forcément, là. Je veux dire... Les cartes sont jouées. On sait qu'il y a deux groupes scindés maintenant avec le tour de championnat et phase de relégation. Lausanne va devoir se concentrer sur la suite et on va dire ils vont garder ce qu'ils ont bâti de bien, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un parcours en Coupe d'Europe aussi en parallèle. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'ils font de bien et puis prendre les matchs les uns après les autres et essayer de bien terminer du mieux possible.
Il est pas mal, hein, t'as vu, hein, il n'a pas besoin de dire Championship Group et Relegation Group, il a trouvé la fente.
Il suit à distance, mais il suit bien.
35 ans, peut-être les plus jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, et ils sont nombreux, ne savent pas forcément qui tu es. Nous, oui, évidemment, en Suisse, on t'associe surtout à Lausanne et à Saint-Gall, un peu moins à Xamax, hein, donc on l'a dit, où tu es aussi passé. En France, c'est Lyon, où tu as notamment marqué ton premier but en pro avec Juninho en amical. C'est aussi avec l'OL que tu as marqué ton seul but en Ligue 1 aux côtés de Pjanic. Et c'est aussi avec l'OL que tu as vécu une veille de match sur la pelouse du Bernabeu contre le Real de Ronaldo en 2010. Alors voilà, on a dit avant avec Jérémy, on rentre de Bernabeu. Honnêtement, déjà rien que d'être dans le stade, c'est une dinguerie. Toi, à l'époque, tu as 19 ans. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui quand tu te vois jeune dans ce Bernabeu?
Avec du recul, je me dis que c'était une chance énorme. Vraiment un très grand souvenir. J'ai fait plusieurs bandes Ligue des Champions, donc forcément, ça m'a marqué. Et puis, la qualif à Bernabeu, c'est un de mes plus beaux souvenirs, même si j'ai failli, en plus, pour l'anecdote, rentrer avant que Miralem Pjanic ne marque le but égalisateur. J'étais en train d'accélérer et à ce moment-là, on égalise. Et là, le coach, il fait retourner sur le banc. Donc, sentiment partagé, ouais. Ouais, clairement. Mais non, après, l'enceinte Bernabeu, c'est exceptionnel.
Ouais. Bon, en plus, c'est l'ancien Bernabeu. Là, nous, on dit, les gens qui n'y sont jamais allés, allez-y. C'est pas que visuel, mais vraiment l'acoustique, c'est un truc vraiment assez exceptionnel. Tu as toujours eu cette étiquette de futur Benzema. Inévitablement, c'est quelque chose qui t'a vraiment... Collé depuis le début de ta jeune carrière sur le dos. À quel point elle était dure à porter, cette étiquette? Est-ce qu'elle a été trop dure à porter?
Après, elle n'était pas forcément justifiée, parce que je ne pense pas qu'on avait forcément le même profil. Je pense que c'est surtout dû origine maghrébine. Voilà. On est Lyon, formé à Lyon, attaquant. Je marquais des buts, il marquait des buts. On n'avait pas forcément le même profil, mais en tout cas... cette étiquette-là, on va dire, elle ne m'a pas aidé. Elle ne m'a pas aidé sincèrement, parce que beaucoup d'attentes, même au niveau média français, on parlait beaucoup, beaucoup de moi. Après, c'est vrai que j'étais plutôt bon, mais je marquais beaucoup de buts. Même en équipe de France de jeunes, je termine meilleur buteur à l'Euro U17. Donc forcément, on a beaucoup parlé de moi. Et c'est vrai que malgré tout, niveau attente, ça ne m'a pas aidé.
Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui aussi, tout le monde dit c'est le nouveau Messi, c'est le nouveau tel ou tel. Donc du coup, en fait, forcément, tu t'accroches un peu à quelqu'un, à l'image de quelqu'un. Et après, pour le joueur en question, on le comparera inévitablement, dès que ça sort une fois, à cette personne-là, à ce joueur-là.
Ouais, et puis ça reste longtemps, l'étiquette, en plus, hein. C'est le souvenir d'un passé glorieux. Et puis on a eu 40 nouveaux Zidane aussi en France, ouais. De Kamel Meriem à Mourad Megni, enfin... des joueurs qui n'ont jamais eu forcément l'étoffe de devenir des joueurs comme Zizou. Et Et je confirme, hein, Yanis, on est de la même génération. Moi, je suivais beaucoup Lyon à l'époque. On s'est affronté en jeune, il ne savait pas, parce que lui, il était connu, moi pas, Suisse-France. Mais moi, je savais très bien qui il était, parce qu'il était déjà dans tous les médias, ça, oui. C'est vrai. Et les attentes, on peut tirer un petit peu le parallèle aussi avec Nassim Ben Khalifa, qu'on connaît bien les deux, qui certes n'a pas été comparé à des attaquants suisses de renom dans le passé, mais à qui on a très vite mis une étiquette et puis qu'on voyait déjà très très haut, peut-être trop haut aussi. Et ça, les médias ne font pas toujours l'affaire des joueurs, ça c'est clair.
L'OL a fait match nul contre le Celta en 8e de finale de l'Europa League, c'était jeudi. L'OL qui tente de renaître aujourd'hui, on imagine que ça te fait particulièrement plaisir de le savoir et de le voir surtout.
Oui, après une phase délicate, c'est vrai que là, ils ont rebondi un petit peu. Ils ont terminé la phase de groupe premier. Donc, franchement, ils ont fait du beau boulot sur la scène européenne. Et puis, même en championnat, ils ont bien redressé la barre, sachant qu'ils ont failli à un moment donné jouer la relégation. Enfin, ils ont même joué la relégation, c'est pas passé loin. Ils avaient fait une remontée extraordinaire pour être en Europe. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir.
Question de K. Rossi. Le gars te demande quel est le joueur le plus talentueux avec lequel tu as évolué à part Karim Rossi.
Donc question, ça, c'est Karim Rossi qui la pose, du coup.
Ah, c'est ça, sa question. À part Karim Rossi.
À part Karim Rossi.
C'est une super question parce qu'on l'a côtoyé, toi, déjà.
Non, et en plus, il s'en sort bien, là, actuellement, pour la petite parenthèse. Mais je dirais forcément Benzema. Ballon d'or. Pas vraiment de suspense là-dessus. Après,
mais Ben Arfa, en termes de talent,
j'ai pas joué avec lui. Je l'ai connu. Griezmann, c'était différent parce que je l'ai connu. Bon, on était en jeune en équipe de France, mais pas au niveau professionnel. Et Griezmann, c'est plus un joueur de collectif. Ouais. Sur une qualité intrinsèque de joueur, Benzema m'a impressionné. Après, Griezmann, c'est vrai que c'est un top player, hein, rien à dire. Et si je devais dire un autre joueur, Juninho. Pourquoi ? Parce qu'on l'associe souvent, Juninho, au coup franc. Ouais. Seulement au coup franc. Alors que dans le jeu, il savait tout faire.
Oui, oui, oui. Il était extraordinaire, c'est vrai. Incroyable.
Pour moi, le meilleur tireur de coup franc de l'histoire. Hein. Ouais. Facile.
Oui, oui. Il y a toujours ce jeu, tu sais, qui revient à un moment donné sur les réseaux, tout à coup. Tu es à la 93e minute d'un match, tu as le centre Ronaldinho, Juninho, Del Piero.
Moi, c'est très simple. Juninho, il peut tirer de n'importe où à 40 ou 40 mètres. 45 mètres, je suis Marseillais, j'exagère un peu, mais 40 mètres, tu pourras le dire peut-être, il tire de partout.
En Suisse, j'ai pensé aussi à Pascal Feindouno, qui est en fin de carrière à Lausanne. Ouais. Mais même en fin de carrière.
Ça tirait bien. Hein.
Sacré magicien.
Oui, oui, oui. Ouais. Bah tiens, parlons-en un petit peu de ta carrière en Suisse. T'es venu avec quelques photos de tes passages au LS et à Saint-Gall notamment. Tu m'as dit texto. Hein, à Lausanne, t'as notamment marqué un but à Bâle contre Yann Sommer, un grand gardien. C'est toi, c'est tes mots. Saint-Gall, c'est aussi une belle amitié avec Geoffrey Tréhan, avec Michael Facchinetti, avec Steven Lang aussi, qui nous dit souvent que t'es dans le top 3 des joueurs les plus forts avec lesquels il a joué, avec Dimitri Payet et Ricardo Cabanas. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton passage en Suisse ?
Très bon souvenir. J'ai passé 8 merveilleuses années en Suisse. Franchement, dès que j'ai quitté la France, c'est vrai que ça a étonné plus d'un. Ça en a étonné plus d'un. J'ai eu notamment des messages de coéquipiers qui m'ont dit « Mais tu vas en Suisse, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» et tout. Mais moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié mon passage et j'en garde des très bons souvenirs dans tous les clubs où je suis passé.
Plusieurs personnes souhaitent connaître ton meilleur souvenir au LS.
Mon meilleur souvenir au LS, je dirais le match du maintien contre le Servette. Quand on gagne 3-0, c'était vraiment un moment fort parce que sur ce match-là, si on perd le match, on tombe.
Et puis le supporter lausannois qui te demande quel souvenir tu gardes de Lausanne, donc de ta vie à Lausanne et puis du Lausanne Sport. Ta vie à Lausanne, t'avais
super, plus super, ouais. Franchement, j'ai gardé beaucoup. J'habitais à Aumont, vraiment limite Lausanne. Exactement, pas très loin du stade, ouais. Et j'ai gardé vraiment un excellent souvenir, surtout que j'ai beaucoup d'amis, j'ai laissé beaucoup d'amis là. Je reviens régulièrement sur Lausanne, donc en termes de vie, je me suis beaucoup plus là-bas. Et puis après,
t'as joué à la Pontaise, toi, hein. Du coup, t'as vu la Tuilière récemment, d'ailleurs, le Lausanne Servette, tu y étais, je crois.
Comme, c'est un petit regret quelque part.
Ouais, t'aurais aimé jouer
dans ce
stade.
J'aurais aimé, clairement avoir cette vibe-là. Ouais.
Bon, il y a un autre stade dans lequel tu as joué qui est un petit peu plus grand que la Tuilière, c'est Wembley. Et cette photo, elle est incroyable. Donc, c'est toi dans ce stade-là. Tu as joué avec la France M18. Pourquoi cette photo, pourquoi ce stade est important pour toi ?
parce qu'on a toujours parlé de Wembley. C'est vrai que quand j'arrive avec l'équipe de France là-bas, ce jour-là, je fais waouh. Franchement, j'ai qu'un seul mot en tête, c'est waouh. Et puis en plus, on joue un match contre l'Angleterre, voilà, qui a été peu fait sur les générations françaises de jeunes. Je crois que c'était même la première fois. Et j'inscris un triplé. Donc forcément, c'est un bon souvenir. On remporte le match 4-2 et j'étais super content.
Ouais, je me souviens, moi, je suis allé dans ce stade pour commenter une finale de Ligue des Champions et ça m'a fait waouh. Alors que je joue pas dessus, il y a cet écriteau, c'est ici que les hommes entrent et c'est ici que les légendes quittent le stade et le terrain. Je me souviendrai de ça à peu
près.
Il n'y
a pas beaucoup qui ont marqué des triplés à Wembley, je pense.
Ah non.
Tu fais partie d'une petite liste.
Ouais, ça a dû être un joli petit kiff. Et tu as aussi été champion d'Europe, hein, justement, M19 avec la France, en battant l'Espagne de Thiago Alcantara. Tu termines meilleur buteur de la phase finale. Dans cette équipe, il y a notamment aussi, justement, des mecs comme Griezmann, comme Lacazette.
Alors, meilleur buteur de la phase finale, c'était en U17.
Ok.
Mais on les a affrontés en finale, on perd la finale en U17 et on les retrouve 2 ans plus tard en finale U19. Donc forcément, il y avait un petit goût de revanche. Et puis c'est sûr que ce sont des bons souvenirs. Clairement, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs aussi, l'équipe de France de jeunes. J'ai beaucoup passé de temps là-bas avec mes coéquipiers. J'ai beaucoup appris aussi au niveau de la formation. Et dans mon passage en professionnel, ça m'a beaucoup aidé.
Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, d'ailleurs on a déjà eu cette discussion ensemble, qui n'ont pas de regrets. Quand on parle de leur carrière, on nous dit tout le temps, mais de toute façon, on ne peut pas changer ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Quand on te voit, quand on voit ces photos, ces images, on se dit, mais le mec, en fait, il aurait pu avoir une carrière de ouf. Est-ce que toi, tu as des regrets? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ouais, j'aurais pu être là, plus haut, plus haut, plus haut? Voilà, c'est une question que tout le monde se pose sur les réseaux.
Oui et non, je dirais. Après, on a tous notre trajectoire. Il y a des faits aussi, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on est footballeur. Moi, j'ai connu un moment entre mes 19 et 20 ans où j'ai eu une grosse blessure dans ma dernière année de contrat à Lyon. Donc, ça ne m'a pas aidé, on va dire, dans mon parcours. J'ai eu un prêt à Toulouse qui ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai enchaîné ça plus l'année blanche derrière. Entre 19 et 20 ans, c'est un peu le moment charnière. Donc, forcément, ça a pris une certaine tournure, mais après, en rejoignant la Suisse, très franchement, je me suis beaucoup plus en Suisse et malgré tout, je suis satisfait et content de ma carrière, même si évidemment, d'où je suis parti et comment on me présentait, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais il y a beaucoup de paramètres que les gens ne prennent pas en compte et que moi, je sais, donc forcément. Au final, je suis quand même content de ce que j'ai fait. J'ai vécu de ma passion. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, épanoui et qui est toujours passionné par le football. C'est le plus important.
Et qui, on l'espère, sera bientôt entraîneur de foot également. On te le souhaite. Petit scoop peut-être quand même. T'es passé à ça de jouer à IB?
Je suis passé à ça de jouer à IB. J'avais eu une offre lors de ma deuxième année à Saint-Gall. Et puis malheureusement, ça ne s'est pas fait.
Bon, ben voilà, on espère en tout cas que tu as pris autant de plaisir à venir ici que nous de te recevoir. C'était vraiment chouette de t'avoir ici. Tu reviens quand tu veux. Bienvenue toujours dans la grande famille de Match Après Match. Merci Yanis. Merci évidemment aussi à toi Jérémy. Notre grande semaine ensemble s'achève comme ceci et ça se termine plutôt bien.
Ouais, ça se termine très très bien. Émission sympa et merci à Yanis d'avoir fait le déplacement.
Merci à vous les deux et puis merci également à Boubou qui a piloté cette émission. Merci pour votre fidélité. On se voit la semaine prochaine. À bientôt. Belle semaine. Ciao.